20h36, ça fait déjà 36 minutes qu'on est ensemble pour cette nouvelle émission. Passagers du monde, voilà, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Passagers du monde, et nous sommes ensemble avec Jean-Maël, Jean et Hans qui parlent justement de ces passagers du monde, de ces migrants, avec quelquefois les uns et les autres, si je puis me permettre, un vocabulaire très souvent anglo-saxon auquel on ne comprend pas tout ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, en revenant sur un état des lieux général de la situation, de quoi parle-t-on quand on parle de jungle, par exemple, ou autre terme inhérent à la problématique qui nous intéresse?
Oui. Moi, j'avais pris comme repère chronologique la fermeture du camp de Sangatte, en fait, qui est un centre qui a accueilli des exilés pendant plusieurs années, entre 1999 et 2002, et qui était géré par la Croix-Rouge. Alors, sans approuver complètement le fonctionnement de ce centre, hein, qui avait une gestion quand même assez particulière, en fait, des personnes qui étaient accueillies dans cet espace, la fermeture de ce centre a, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, entraîné entre guillemets l'éparpillement, en fait, des populations migrantes sur le littoral nord, et notamment le long des deux axes routiers, en fait, qui dessinent la route vers l'Angleterre, les deux axes routiers, donc l'île Dunkerque et Arras-Calais. Et c'est autour des aires d'autoroute, de ces axes routiers, en fait, que vont se créer, bon gré mal gré, en fait, des lieux de vie, ou plutôt des lieux des espaces de survie, en fait, dans lesquels les personnes migrantes vont vivre un temps donné, en attendant, en fait, le passage, en fait, le passage qui se joue, en fait, par l'intermédiaire des camions, en fait, des camions notamment, enfin, actuellement, avant, il y a aussi l'époque où le train, en fait, était aussi le moyen, en fait, de rejoindre le Royaume-Uni. Après, en fait, toute cette période, en fait, qui succède la fermeture de Sangatte, en fait, ça s'accompagne au niveau des points d'entrée, en fait, vers le Royaume-Uni, c'est-à-dire le port, Eurotunnel, etc., d'une sécurisation, en fait, de ces espaces-là pour empêcher, entre guillemets, toute intrusion, en fait, de personnes migrantes. Et donc, oui, le point stratégique devient les aires d'autoroute, en fait, qui vont permettre, en fait, d'atteindre les remorques des camions. Et donc, ça veut dire que se développent des bidonvilles, en fait, mais alors dans des conditions extrêmes de précarité, sans accès à l'eau, sans accès à l'hygiène, construits de palettes, de bâches, enfin de résidus de récupération, dans lesquels des personnes vont chercher à survivre, quoi. Avec une pression policière, en fait, qui va rester, enfin, qui va finalement rester, ouais, assez constante, où le positionnement, en fait, des forces de police et quelque part de l'État, c'est aussi de dire que, en dissuadant, en fait, les populations migrantes, en leur disant vous n'êtes pas les bienvenus sur le territoire, on espère, en fait, qu'elles ne resteront pas, quoi.
Alors vous êtes quand même tous confrontés à une situation qui est particulièrement complexe, dans la mesure où, hormis si on fait abstraction, entre guillemets, de la position des no-borders qui sont pour tout simplement l'abolissement des frontières, ce qui réglerait une fois pour toutes l'ensemble des problèmes posés, vous, en tant qu'association, ceux d'entre vous qui représentent des associations, ne pouvez en aucun cas vous positionner comme des hors-la-loi, comme des facilitateurs de transit. Vous avez donc une action qui est essentiellement dans un contexte humanitaire, et vous êtes quelquefois, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises. Jean, qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, tout à fait. Donc nous, c'est par exemple à Steinward ou dans les autres associations, c'est vraiment une aide humanitaire, et en fait c'est pour ça qu'on a créé l'association, c'est pour avoir aussi un cadre juridique. Donc c'est pour pas qu'on intervienne sans cadre juridique. Et donc, nous, particulièrement, on travaille avec la mairie, avec la municipalité qui nous prête un terrain. Donc, du coup, on n'est pas hors la loi, puisque ça reste strictement humanitaire.
Voilà, alors Hans, toi forcément, tu risques d'avoir une position un peu difficile parce que d'une certaine mesure, tu prônes avec beaucoup de conviction la philosophie no border, donc on abolit les frontières, il n'y a plus de problème. Et en même temps, j'imagine que tu n'es pas là, entre guillemets, pour prôner la révolution armée et la lutte contre la légalité. Alors comment tu trouves ton équilibre dans tout ça? Où tu te situes par rapport à ton action?
Ben, c'est une démarche politique, ça c'est clair. En tant qu'individu, je refuse de me faire représenter ou de déléguer ma souveraineté à des politiciens professionnels. Donc, je prends ma vie en main et je mène ma vie d'être humain politique pleinement. Et ça veut dire que je mène des actions, je me rassemble avec des gens, je mène des actions. Et il faut dire que parfois, par nécessité, les no-borders vont aussi un peu dans l'humanitaire, puisqu'on est quotidiennement confronté avec des situations très dures. On noue des amitiés avec les gens, et donc du coup, émotionnellement, c'est très dur de ne pas les aider pour des tentes, des bâches, des sacs de couchage ou tout ce qu'on peut trouver. Par contre, on mène aussi clairement une action politique, c'est-à-dire quand la répression et l'harcèlement dure a commencé avec l'arrivée de Bouchard, là ça s'est vraiment accéléré, ça s'est approfondi. On a commencé à faire des patrouilles, par exemple, dans les jungles. Parce qu'on avait compris, il y avait déjà des Calaisiens qui sillonnaient un peu partout dans la ville et qui prenaient en photo la police quand ils harcelaient des migrants. Mais on a repris cette méthode, donc on a commencé à circuler tard ou la nuit ou tout le matin. Parce qu'on avait vu que la violence de la police était moins explicite s'il y avait des gens avec des caméras ou des appareils de photo qui regardent sur leurs doigts. Bon, avec le temps, ils se sont adaptés aussi dans leur comportement. Mais ça nous a permis... En plus, on a récolté des témoignages de violences policières, de toute cette répression. Et du coup, je pense que c'est il y a 2 ans, on a fait une compilation de tout ce qu'on a pu... récolter comme témoignage, photographier, filmer, et on a donné ça aux défenseurs des droits ici en France avec le soutien de Justi. Donc Justi, c'est une association d'avocats engagée. Et c'était le tout premier dossier qui avait été donné dans les mains de ce nouveau défenseur qui était installé par Sarkozy. Et du coup, des petites transgressions de la police quotidienne et de l'harcèlement de tous les temps, en les cumulant, ça devient impressionnant et ça devient crédible aussi, parce que dans beaucoup de cas, même si on dénonce par exemple des bavures, on ne nous prend pas forcément au sérieux, mais là c'est devenu tellement important que c'est très difficile à nier.
Moi je suis pas sûr, en fait, pour répondre à ta question, Patrick, que la distinction se fasse entre humanitaire. Et d'un côté, il y aurait les humanitaires, et de l'autre côté, il y aurait les hors-la-loi qui sont... je pense que la chose est un peu plus complexe, dans le sens où le droit et la loi, en fait, elle peut très bien définir effectivement le rôle de chacun, mais elle peut très bien être aussi un levier, en fait, un moyen, en fait, de faire changer les choses. Alors là, Hans prend l'exemple de la saisine de 2011 qui a été réalisée conjointement par le syndicat de la magistrature, le Justi et les No Borders, et qui a montré en fait que les représentants de la loi étaient hors la loi. Donc il n'y a pas d'un côté en fait des bénévoles qui seraient dans le cadre légal, qui, et il est vrai, auparavant étaient beaucoup plus restrictifs, c'est-à-dire qu'il y a eu cette loi, ce qu'on a appelé le délit de solidarité. Et qui a condamné d'ailleurs un certain nombre de personnes. Enfin, là-dessus, il suffit d'aller voir le Justi pour voir qu'un certain nombre de personnes ont été inquiétées parce qu'elles aidaient, elles apportaient de la solidarité auprès des personnes en situation irrégulière. Alors, cette loi a été réécrite, elle existe toujours, elle encadre beaucoup mieux, et la majeure partie des actions En tout cas, des réseaux du réseau PSM sont couvertes par cette loi, mais elle existe toujours cette crainte d'être inquiété parce que on aiderait une personne en situation irrégulière. Je crois que c'est l'idée qu'il faut avoir derrière, c'est que ça peut être un levier. Je pense, pour la saisine de 2011, on a montré que les policiers qui devaient faire respecter la loi n'étaient même pas eux dans la loi. On a d'autres exemples à Cherbourg où, par exemple, les demandeurs d'asile, et c'est le cas à Calais aussi à Dunkerque, c'est l'État est censé pouvoir accueillir et proposer un hébergement aux personnes demandeurs d'asile. Pourtant, il y a des personnes qui sont quand même à la rue, quoi, à vivre dans des squats ou des jungles. Donc là aussi, l'État peut être hors la loi.
Alors moi, je me garderais bien de porter un jugement de valeur sur les actions des uns et des autres, mais quand je t'entends, je sens la passion qui t'anime de mener ces combats contre certaines formes d'injustice. Est-ce que pour autant, je m'adresse à toi, Hans, mais également à Jean ou à Maëlle, est-ce que pour autant, on doit limiter, ou est-ce qu'il ne serait pas dangereux de vouloir limiter votre action mettre en exergue les abus de pouvoir, les abus de justice ou les dénis de justice? J'imagine qu'au sein de votre action, il y a aussi d'autres orientations.
Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à faire que... avec des autorités qui sont très souvent dans l'illégalité, déjà essayer de repousser ça, c'est tout un travail. Et puis par après, comment on va changer la société, comment on va abolir les frontières, ça ne sera pas juste les no-borders qui vont le faire, ça sera avec beaucoup de monde. Et si on est capable de montrer la légitimité de notre action, peut-être qu'on trouvera des alliés avec qui on pourra un jour abolir les frontières.
Alors bon, de toute évidence, on en reparlera, parce que de toute évidence, on est dans une situation extrêmement complexe, avec des engagements individuels qui sont forts, qui se rapportent à l'histoire de chacun, à la réflexion de chacun. Mais on peut peut-être revenir, pour que ce soit intelligible par tous, sur l'état des lieux général de ce problème migratoire. D'abord, pourquoi existe-t-il, hormis le fait que c'est parce qu'il y a des frontières, pourquoi existe-t-il au sens où quelle en est la source, ou quelles en sont les sources?
Donc moi je vais parler pour le cas de Steenvoorde. En fait, on accueille majoritairement des Érythréens. Donc l'Érythrée, c'est l'ancienne Abyssinie, on appelait ça, c'est le berceau de l'humanité. Donc on vient tous de là-bas. Et en fait, c'est un pays qui a connu la guerre avec son voisin l'Éthiopie. Et depuis l'indépendance en 93, donc c'est un tout récent pays, il y a le chef de l'armée révolutionnaire, Isaias Afwerki, qui s'est autoproclamé président, en fait. Et au lendemain des attentats du 11 septembre, aux États-Unis, il a complètement verrouillé le pays. Donc il a interdit toute presse indépendante, donc notamment dans le réseau... Reporters sans frontières, le classement de Reporters sans frontières, le pays est dernier en matière de presse. Donc il a complètement verrouillé. Donc il fait croire à la peur d'un envahissement de son voisin l'Éthiopie. Donc ça l'a amené à créer un service militaire obligatoire. Donc à partir de 18 ans, tous les hommes et toutes les femmes sont enrôlés dans l'armée. Et la particularité, c'est que c'est un service qui est illimité dans le temps. Donc on peut rester 20 ou 30 ans au service de l'armée. Donc il est bien sûr interdit de quitter le territoire, il y a des religions qui sont interdites, donc c'est ça qui pousse plusieurs hommes et plusieurs femmes à quitter le pays. Et notamment, j'ai une petite anecdote, c'est en 2009, il y avait un match avec l'équipe nationale d'Érythrée qui s'est passé au Kenya, et au moment du retour, il y a 12 footballeurs qui ne sont pas présentés à l'aéroport pour rentrer chez eux, et ils ont préféré fuir le pays.
Alors là, on est dans un cas de figure où, même si la vie là-bas ne doit pas être particulièrement facile sur le plan économique, on n'est pas dans le cadre d'une fuite, d'une migration économique, mais davantage d'une migration politique.
Oui, c'est la fuite, il fuit la guerre et la dictature, en fait, tout simplement.
Alors, un autre exemple, j'imagine qu'il y en a plusieurs.
Oui, on va pouvoir développer un peu. Après, c'était juste... Je pense qu'il y a... il y a intérêt à, en tout cas, à ne pas forcément faire de distinction migrant économique, migrant politique, ou tout ça est relativement subjectif en fait. À quel moment en fait on décide de partir, à quel moment on se dit là où on est, on peut plus vivre. C'est pas uniquement forcément un paramètre, c'est pas peut-être uniquement le contexte politique du pays dans lequel on vit, c'est peut-être de multiples facteurs en fait. Et du coup, moi j'aurais tendance à relativiser, à nuancer un peu cette histoire de migrants économiques, migrants politiques, etc. Parce que tout ça révèle un peu de la subjectivité de l'individu. On a souvent l'habitude de dire qu'à chaque migrant, en fait, son parcours migratoire, en fait. Il y a des tendances, on pourrait s'arrêter sur les nationalités présentes ici. Effectivement, on trouve sur les camps de Steenvoorde, de Noranfont, à Calais également, des populations venant d'Afrique de l'Est, Érythrée, Soudan, Éthiopie. Tous ces pays n'ont pas non plus la même histoire.
Des pays asiatiques aussi, quelquefois.
Oui, il y a, par exemple, dans le bassin minier, il y a un camp près de la ville d'Angres, et c'est majoritairement en fait des personnes qui viennent du Vietnam et d'une région très particulière du Vietnam, très localisée, relativement rurale. C'est difficile de distinguer des cases, quoi. Enfin, je veux dire, il y a chaque parcours a sa particularité. Après, il y a effectivement des tendances. L'Érythrée, elle est surnommée la Corée du Nord. L'Afghanistan, c'est un pays qui est en guerre depuis 30 ans maintenant. Tout ça produit en fait un contexte géopolitique qui peut être source, avec d'autres facteurs, de migration, quoi.
Alors, dans mon rôle un peu d'avocat du diable, en l'occurrence, je vous pose des questions que vous avez certainement entendues mille fois et qui peuvent paraître agaçantes, mais vous comprendrez que je le fais exprès pour vous permettre justement de vous exprimer sur le sujet. Pourquoi on parle de migration économique ou de migration politique, etc. Tout simplement parce que même si l'idée d'un monde sans frontières que je veux bien volontiers partager en ce plan philosophique paraît être une belle idée, c'est pas forcément si simple. Et est-ce que l'Europe, et c'est là que ma question est peut-être bateau, mais elle va vous permettre de réagir, est-ce que l'Europe peut porter l'ensemble du malheur du monde sur ses épaules?
Bon, ça, c'est la fameuse phrase de Rocard.
Je ne sais pas de qui elle vient, pour être très honnête. Elle me permet simplement de vous donner l'occasion de donner votre position par rapport à ça.
Bon, ça tombe bien. Hein. C'est un peu pour ça aussi qu'on cherche qu'on s'est retrouvé pour produire et élaborer ce type d'émission et de communiquer sur un autre discours autour des migrations, en fait. Et c'est vrai que cette phrase-là, elle structure en fait le débat autour des migrations. Mais elle est très vite contestable, on va dire, parce que d'une part, l'Europe et même la France ne porte pas toute la misère du monde, puisque si on prend les Syriens et qui fuient la dictature de Bachar el-Assad depuis 2011 maintenant, la majeure partie des pays limitrophes, c'est eux qui accueillent en fait la grande majorité des réfugiés syriens, en fait. Il y a bientôt plus d'un million de réfugiés syriens au Liban. Si on fait un ratio avec les populations syriennes accueillies en France, je veux dire, il n'y a pas trop à discuter, en fait. La majeure partie, en fait, quand il y a un conflit, des réfugiés vont d'abord se réfugier, du coup, je me répète, mais dans les pays limitrophes. Et c'est par ricochet, après plusieurs étapes, parce qu'il n'y a pas eu de refuge ailleurs, dans les pays limitrophes ou dans un cercle environnant, que les gens arrivent après en Europe. Donc c'est pas toute la misère, puisque la misère est ailleurs, premier point. Et deuxième point, c'est que migrer, ça implique de mobiliser en fait des ressources financières, des ressources, un capital de connaissances. Pour migrer, il faut savoir que dans le pays d'à côté, on a quelqu'un qui pourra nous accueillir et nous envoyer peut-être dans le pays d'à côté, et ainsi de suite. Et voilà. Et ces ressources-là, tout le monde ne les a pas, en fait. Et donc, la misère du monde, bien souvent, elle reste chez elle, en fait. Voilà. Oui, on accueille bien souvent, en fait, les personnes les plus diplômées, avec le plus de bagages culturels, etc.
Et est-ce que parmi les questions, justement, de cet ordre, qui doivent vous être posées régulièrement, il n'y en a pas une qui revient également, qui consisterait à dire que, en admettant que le problème d'ouvrir les frontières au flux migratoire actuel ne soit pas si grave, est-ce que le fait de légiférer en les ouvrant pour te rejoindre, Hans, en disant finalement ce serait tellement plus simple, est-ce que les politiques n'ont pas tout simplement peur que ce soit la porte ouverte à quelque chose qui ne s'arrête jamais?
En fait, les frontières ont été inventées avec un but précis, c'est-à-dire créer des États-nations. On a inventé la carte d'identité pour quelque chose. C'est pour nous contrôler et pour savoir où nous habitons. Du moment qu'on pourra migrer, nous aussi et tout le monde, comme on l'a fait pendant des millénaires avant, ça veut dire que les États vont avoir de très grandes difficultés pour continuer à nous contrôler, à mener la guerre, à exploiter, etc. Et c'est là que qu'il y a la difficulté.
Là, on est vraiment dans une dimension politique avec un P majuscule. D'un autre côté, je retiens quelque chose à travers ce que tu viens de dire, c'est que finalement, s'il n'y avait pas de frontières à l'immigration, il y a peut-être un équilibre naturel qui se ferait entre les gens qui arrivent, les gens qui partent, les gens qui voyagent, et on ne serait pas forcément confronté à des problèmes de concentration massive.
Ça a toujours été comme ça. L'État-nation est assez récent. Je ne dis pas qu'il n'y avait jamais eu de problème avec de grands déplacements de population. Il y a eu des guerres et il y a eu des problèmes. Je ne dis pas ça. Je dis juste que en installant des frontières, on ne va pas résoudre cette question.
Voilà, je vous propose une page musicale et après, eh bien, on aura l'occasion de prendre à l'antenne notre invité.